Le bien-être commence à l'intérieur. C'est le credo de Valley Bio, marque française de compléments alimentaires et superaliments hautement dosés, répondant à des problématiques de beauté, santé et bien-être. Valley Bio nous accompagne notamment dans la ménopause avec le complexe Ménopause, qui régule les bouffées de chaleur grâce à la synergie de trois actifs naturels. Un complément compatible avec tous les stades de la ménopause ainsi que les traitements hormonaux. Merci à Valley Bio de soutenir notre podcast. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour, on a rendez-vous avec votre femme, c'est pour ça qu'on est là.
C'est le même bras.
Tout à fait. Bonjour, ravi.
C'est vous.
Mais non, allez-y, c'est nous.
Vous voulez rentrer?
Ben, on n'osait pas, on attendait votre femme. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce qui vient de nous arriver. En fait, on était dans l'impasse, en train d'attendre Carla Bruni. Et tout d'un coup, arrive son mari, qui fait son petit jogging tranquillement. Et du coup, ben, il est venu nous dire bonjour et il nous a fait rentrer dans la maison. Un matin, je lui ai envoyé un message, tout en me disant « Elsa, t'es folle ! Jamais elle acceptera !» Et elle a osé ! Elle, maîtresse incontestée dans l'art de se réinventer, top modèle magnétique, ex-première dame engagée, chanteuse sensuelle, à la fois puissante et tellement libre, Carla Bruni Sarkozy n'en reste pas moins soumise aux lois du corps et à celles du temps. Comment a-t-elle fait face à la ménopause ? Au combat contre le cancer du sein? Quel regard porte-t-elle aujourd'hui sur sa féminité?
T'es accueillie là.
Oh là là.
Il vous a gavé de chocolat?
Oui.
Ah ben ça
alors,
c'est bien
déjà.
Pardon pour le retard.
Oui, mais non, c'est pas grave. Et alors,
mais on va pas se mettre ici.
Oui,
mais vous venez avec moi, regardez. Mais vous a gavé de chocolat, ça me fait plaisir.
Il a été extrêmement sympathique. J'ai l'impression de rentrer dans un lieu. On l'a tellement, en fait, à chaque fois que vous faites une petite
vidéo, on le voit.
On le voit. Et à chaque fois, on se dit, ça y est, on y est. Là, tu vois, je me dis, on y est. Ça y est.
Je vous mets des chaises et je vais vous donner à boire aussi, les filles.
Je suis très contente de participer à ce podcast. Merci de m'inviter.
Mais non, merci de nous recevoir. Alors, nous recevoir dans votre studio,
voilà.
Quand on fait des sujets sur vous, souvent on le voit à la télévision.
On le voit parce que c'est vrai que je vis ici pratiquement, mis à part quand je vais dormir ou déjeuner ou dîner. Mais sinon, le reste du temps, c'est une pièce qui m'absorbe et c'est la preuve qu'on peut vieillir sans mûrir.
Pourquoi vous avez accepté de parler de la ménopause? Ça vous a pas fait flipper?
Non, pas particulièrement. Moi, parler, ça me fait pas flipper. Hein. Ce qui me fait flipper, c'est le silence.
Ah oui.
Ouais, moi, je crois que les maladies, elles se développent dans le silence. Le fait de ne pas exprimer quelque chose, je trouve que c'est ça qui est pathologique. N'importe quel trauma, même le plus grave, commence à se dissoudre dès qu'il est dit. Si quelque chose peut être dit, il se résout. C'est important, la parole. C'est notre symbole à nous.
Hein? Ah oui. Et alors là, vous êtes à quelle étape en ce moment?
Moi, je ne sais pas. Mais dans ma vie ici courante, dans ma vie de personne, Carla Bruni, etc., je suis justement à cette étape transitoire qui est entre la cinquantaine et la soixantaine, qui est une étape très particulière, à mon avis, pour les femmes, et bien davantage que pour les hommes, parce qu'il y a une fracture hormonale, etc., et des modifications qui, pour moi, sont comme celles de l'adolescence.
C'est ça.
C'est une vieille adolescence.
Mais qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez ressenti? Parce que cette période transitoire, on la vit, moi je la vis aussi. Moi je les connais, mes symptômes, mais vous, c'est quoi vos symptômes?
Moi j'ai été étonnée par le peu d'informations.
Ah oui?
Écoutez, c'est relié aux hormones, et les hormones, c'est quelque chose qui nous échappe complètement et qui est en plus complètement individuel. Parce que moi j'ai noté dans ma vie de femme, donc... pourvu d'hormones féminines, donc estrogène et progestérone.
Bien sûr. Ouais.
J'ai noté qu'il y avait tous les types de femmes. Parmi mes amies, et même dans les femmes de ma famille, il y a celles qui se plient en deux à chaque cycle, il y a celles qui sentent rien, qui s'en rendent pas compte. Il y a celles qui ont des grossesses où elles font de l'équitation et du ski, il y a celles qui sont couchées du premier jour à la fin. Il y a celles qui n'y arrivent pas à concevoir un enfant qui vraiment leur corps ne veut pas. Il y a celles qui, leur corps est d'accord, mais elles, non. Et ça échappe tellement à tout didactisme que je dirais que... Moi, ce que je ressens, c'est j'ai ressenti une certaine confusion, en fait. Comme une vraie modification, par exemple, modification du sommeil. Moi, j'étais une marmotte.
Mais oui, vous dites que vous dormez beaucoup. Mais je me disais, mais quelle chance elle a.
Je suis à deux doigts d'hiberner, quoi. Alors, l'hiver prochain, je ne suis pas sûre que j'hiberne pas. Il doit y avoir un système. On va trouver la drogue idoine pour ça. Il doit y avoir un truc qui vous fait dormir 6 mois. Tranquille ici, je mets un petit lit. Bien au chaud.
Mais maintenant, non, vous dormez moins.
Bah oui, parce qu'en fait, ça, moi, en plus, je prends un traitement de anti-hormonal, une hormonothérapie qui, en plus, impacte le sommeil. Mais globalement, oui, il y a des modifications. Encore une fois, il y a celles qui ne se modifient pas. Mais j'en connais aucune qui ne grossit pas. Non, mais moi, justement, j'ai arrêté de prendre du poids. Enfin, j'ai arrêté tout simplement de manger. Mais enfin, c'est dans les 2 ans qui viennent d'arriver. Hein. Avant, j'avais une vie normale.
Vous faites des repas fractionnés ?
Non.
Non.
Je fais un repas à la place de 3.
Alors là, va falloir m'expliquer.
Je prends que le dîner, voilà.
Ah bon ?
Oui, mais ça, c'est pour des raisons professionnelles. Si je faisais un métier avec vraiment aucune circonstance d'image, je me prendrais 5 kilos. Tranquille, pépère. Hein, parce que franchement, mon mari, c'est pas lui qui se plaindrait. Et moi, bon, à 56 ans, un peu plus de joues, si je prenais 4-5 kilos, je serais pas mécontente, même esthétiquement, je voudrais pas en prendre 15. Mais juste... Voilà, prendre une taille, je me le permettrais. Je ne me le permets pas parce que ça m'angoisse d'aller devant les gens modifiés, en fait.
Ça veut dire quoi ? Ça vous fait peur ? Ça
non,
vous stresse ?
Oui, ça m'angoisse ça, moi, ça, par rapport à moi-même. J'ai du mal avec l'image à mon âge. J'avais du mal déjà jeune, mais j'en avais plus besoin. Maintenant, j'en ai un peu moins besoin. Il y en a beaucoup. Et elle m'encombre. C'est pitoyable. Ça me gêne. C'est fait pour les gens jeunes et qui sont inconscients. Qui ne comprennent pas ce que c'est, que ça amuse, auquel ça donne un sens. Ça, c'est très, très formidable quand ça se passe dans la jeunesse. Mais même eux, enfin, l'image, on n'en sort pas indemne. Hein. Donc, c'est quelque chose qui me...
Mais que vous soyez, justement, que vous soyez pesé par cette image et que vous n'ayez pas envie de prendre du poids pour garder cette image qu'on a de vous.
Mais c'est surtout l'image que moi-même j'ai de moi.
Ah, oui.
Parce que le problème du narcissisme, c'est réellement de soi à soi. Le problème de l'image, c'est pas les autres. Parce que les autres ont toujours une image bien meilleure, bien plus douce, ou d'ailleurs pire. C'est pas quelque chose qui impacte le ressenti des autres. En général, les autres, même si par exemple vous avez une image publique, et imaginons que vous croisez quelqu'un qui vous aime pas, s'il est dans le même endroit que vous, souvent il vous dit un truc sympa. Même si dans le fond du vent, il vous aime pas.
Oui.
Parce que l'image publique, elle prend une place, si vous voulez, en fait, elle vous protège de quelque chose tout en vous exposant à d'autres choses, mais elle protège de l'indifférence. Et donc, moi, ça me coûte moins d'avoir une image publique avec tout ce que ça implique que d'être complètement inconnue. Pour moi, inconnue, je sombre un peu dans le néant, quoi.
Ah oui.
C'est vraiment personnel. Cette persona que j'utilise dans mon image, parce que ce n'est pas exactement moi hein, qui est la personne que les autres voient, donc j'en ai une autre, comme un avatar. Cette persona, elle ne veut pas grossir. Mais ça m'arrange. Parce que moi, je n'ai pas tellement envie. Pour moi, l'affaire de la prise de poids, elle est très relative à la santé, quoi. Plus qu'à l'apparence. Moi, je crois que c'est très mauvais pour la santé. Les maladies, elles aiment la graisse. Elles n'aiment pas le sport. Si vous faites du sport tout le temps, vous avez beaucoup, beaucoup moins de maladies.
Vous en faites du sport.
Moi, j'en fais tout le temps, mais aussi pour des raisons médicales. Parce que j'ai essayé de m'informer sur les raisons des maladies. Et certaines maladies, par exemple, si vous fumez 3 paquets par jour et que vous avez un cancer du poumon, on sait que c'est intimement relié. Mais il y a certaines maladies, comme le cancer que j'ai eu moi, donc un cancer du sein. Et je voulais savoir si c'était relatif à mon hygiène de vie, à ma... Aussi, les hormones que j'ai pu prendre dans ma vie. Moi, je suis d'une génération où on prenait la pilule, etc. Bon, j'ai eu mon second enfant extrêmement tard, à 44 ans. Donc ça aussi, c'est beaucoup d'hormones. Et le docteur m'a dit, absolument pas. Il y a tous les cas de figure des femmes qui n'ont pas pris une hormone et qui ont exactement la même chose que vous. Des femmes qui n'ont jamais fumé une cigarette, qui ont exactement la même chose.
Justement, comme vous avez abordé votre cancer, je me demandais pourquoi vous avez voulu en parler sur les réseaux sociaux. Quand vous avez fait ce post avec vos pancartes, vachement bien d'ailleurs.
J'ai fait un post parce que je me suis dit qu'il était pratiquement impossible, mais pratiquement impossible, qu'une femme, au moins, voit ce post et n'aille pas faire sa maman. Je me suis dit, c'est certain qu'au moins une femme, c'est-à-dire en voyant ce poste, est allée faire sa maman, d'accord.
Mais bon. Moi, en le revoyant, j'ai dit, ah, il faut que j'aille faire ma mammographie.
Que ça lui donne en tout cas le réflexe de prendre rendez-vous. Donc, je me suis dit, c'est une bonne chose, parce que moi, j'ai eu une petite bataille grâce au dépistage. Et donc, le dépistage est vraiment, vraiment fondamental. Et j'ai fait ce poste pour inciter les femmes à se dépister. Voilà.
Oui, parce que vous dites que si vous n'aviez pas fait cette mammographie, vous auriez pu perdre votre sein gauche.
Exactement, et pas seulement perdre le sein, être obligé de faire une chimiothérapie en plus de la radiothérapie et de l'hormonothérapie et de la chirurgie. Et ce n'est pas rien, on perd tous ses cheveux et ça terrifie sa famille et même soi-même, ça fait peur.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'hormonothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
L'hormonothérapie, c'est un traitement oncologique qui est fait en général pour les cancers hormonodépendants. Il y en a beaucoup au sein, il y en a aussi à la prostate. Et donc, l'hormonothérapie, ce n'est pas un préventif. C'est un médicament actif qui réduit les tumeurs, qui fait disparaître les cellules. Donc, après un cancer tel que celui que j'ai eu, il est prescrit une hormonothérapie environ pour 5 ou 7 ans. Et c'est une pilule qu'on doit prendre tous les jours. Mais moi, je la bénis, l'hormonothérapie. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je la prenais revêche les premiers 2 ans. Oh. Ça donne des douleurs, elle fait grossir, elle fait vilaine, elle fait tomber les cheveux. Bon, il y a mieux comme moment à passer. Hein. Et puis, un jour, un ami à moi m'a dit que sa mère avait eu une rechute de la même maladie que moi et qu'elle n'était pas opérable parce qu'elle était très âgée. Elle avait donc eu un cancer du sein vers l'âge de 60 ans et ensuite, maintenant elle a presque 90 ans, elle avait une rechute. Et que donc, il lui avait simplement donné l'hormonothérapie et en 6 mois de traitement, sa tumeur de 1 cm avait disparu. Donc il m'a dit, donc tu vois, je comprends que tu la prennes si mal, cette hormonothérapie, mais enfin quand même, c'est fantastique. Et encore une fois, tout est une affaire d'angle au fond dans la vie. J'ai soudainement vu ce qu'il voulait dire. Et je me suis dit, je vais la prendre tous les matins contente. Et donc, tous les matins, je la prends contente. Moi, je crois que la joie appelle la joie, que le soleil appelle le soleil. Moi, je crois vraiment que ça marche comme ça. Donc, je la prends contente. Eh bien, je vais vous dire, je la digère mieux.
Moi, je vais faire comme vous maintenant. Je vais me réveiller contente. Je vais me dire, allez, cette ménopause,
je me réveille très angoissée parfois.
Ah, bon.
Mais j'utilise ces petites techniques physiques, psychologiques, aussi
spirituel.
De l'esprit spirituel, oui. Et elle marche, en fait.
Dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai écouté de vous, à chaque fois, vous dites, on a cette sensation que vous avez peur de la mort.
Ouais, et
vous
j'ai
avez
eu
une
très
chanson.
Peur jusqu'à ce qu'elle elle siffle à mes oreilles.
Ah oui, c'est ça.
Et là j'ai essayé de l'aménager.
On avait préparé une chanson qui s'appelle « Pas une dame ».
Je ne suis pas une dame, non, pas question d'être une dame. Plutôt mourir d'amour, plutôt louper le tram. Plutôt vivre à rebours, griller dans les flammes. Plutôt devenir vautour ou bien toxicomane.
Ah ouais, elle est marrante.
Et dans cette chanson, vous dites: je ne suis pas une dame, oh non, pas question d'être une dame. Plutôt mourir d'amour, plutôt louper le tram.
Oui.
Enfin, toute cette chanson, justement, j'avais l'impression que c'était vraiment une peur de la mort. La peur de vieillir, quoi.
Ouais, la peur de vieillir, certainement. Vieillir, c'est pas un cadeau. Hein.
Non.
Hein? Comme disait Mae West, c'est pas pour les mauviettes. Hein. Ça fait le tri, hein, ouais. Je dirais. Mais c'est une chance, parce que ça veut dire qu'on n'est pas mort, justement. Non, j'ai beaucoup moins peur de la mort. Depuis la maladie, beaucoup, beaucoup moins. J'ai le sentiment qu'en fait, la mort est une espèce de transition. Voilà.
Quand on parle du temps qui passe, quand on est si jolie, que vous l'êtes, même aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, je trouve, quand je vous regarde. Qu'est-ce que ça fait, justement, de vieillir?
C'est pareil. Parce que... Mais moi, je ne vieillis pas beaucoup dedans, parce que je suis quand même... Je ne sais pas pourquoi je ne mûris pas. Ça m'ennuie. Je fais vraiment tout mon possible. Je me cultive en ce sens. Je m'approfondis, je cherche. Mais non, je crois que je vais mourir comme ça. Comme je suis née, si vous voulez. Je me sens pas tellement différente. Je suis désolée un peu pour ce pauvre corps, désolée, mais en même temps, il m'a tellement bien servi, tellement longtemps. Et tellement longtemps, il m'a pas imposé de régime, de difficultés. Il faut bien qu'il se décarcasse un peu avec le temps. Hein.
Mais ce corps, quand même, vous êtes incroyablement bien foutu, si je peux me permettre.
Ça, c'est gentil.
Non, mais c'est vrai.
Non, ça,
je
sais
pas. Qu'est-ce que vous faites ?
Moi, je fais du sport depuis toujours. Je suis d'une famille de sportifs. Tout le monde fait du sport. On fait du sport. Je fais 1 heure de cardio, environ 40 minutes. Et après, je fais ou du pilates avec mon professeur Mathieu, qui est fantastique, et la DAD. fantastique, fantastique. Mais il n'a plus de place. Hein, donc. Mais surtout, il est extraordinaire. Donc, le pilates, c'est extraordinaire. Le sinon, pilates, je fais de l'extend bar, de la musculation. Je fais absolument tout. Je fais de la natation, je fais de la marche, je fais du ski, je fais du jogging. Je fais surtout de l'elliptique et du renforcement musculaire et du pilates. Le plaisir, c'est d'aller chercher les choses avec les dents. À Céline Roy, je fais aussi avec elle des cours. C'est fantastique pour le ventre. Et particulièrement dans la période comme ça hormonale, mais même pour les femmes plus jeunes, c'est formidable. Vraiment, c'est-à-dire que, parce qu'il faut comprendre que la prise de poids au fond de la ménopause n'est pas réellement une prise de poids normale, elle est une modification de la répartition des graisses, en vérité.
Complètement.
Dans ce que trouve avec la taille fine, la taille n'est plus fine. Et donc, les graisses se répartissent d'une autre manière que lorsqu'on était jeune, en fait. Elles montent vers le haut du corps. Il y a quelque chose de légèrement androfige qui se manifeste. Donc, ça, c'est hormonal. Donc, on ne peut absolument rien faire contre ça, en vérité. Le fait que les hormones baissent, c'est dû au cortisol, d'accord ? Donc, ça donne du cortisol. C'est le cortisol qui donne cette graisse-là. La méthode de Céline, ce n'est pas seulement de la tonification de l'abdomen, etc., de la musculation ou du pilate exprès. C'est aussi un truc qui fait descendre le cortisol.
C'est ça.
Parce qu'elle fait descendre le stress, sa méthode. Donc, cette respiration qu'elle fait en utilisant l'élongation, en quelque sorte, du ventre, le fait de garder la cambrure, ça change absolument tout. C'est une méthode remarquable. Moi, je fais un peu de sa respiration presque tous les jours. Je suis abonnée à son appli, donc même quand je peux pas faire les cours avec elle en ligne ou avec elle en présentiel, je fais un petit moment de cette respiration. Elle apporte vraiment, ouais, elle enlève la tension, donc elle fait baisser le cortisol, elle fait baisser le poids et l'accumulation de.
Je me demandais comment, quand on parle du poids, je sais que vous avez été très addict au sucre aussi toute petite.
Ouais.
Enfin, vous avez commencé petite puisque vous le racontez, c'est vos mots, que vous preniez 60 coca par jour.
Ouais.
Vous aviez des petites pilules Pulmol comme déjeuner.
Encore aujourd'hui.
Encore.
Vous ne donnez pas une boîte de Pulmol. Je vous la finis en 10 minutes.
Comment vous avez réussi en fait à changer cette alimentation? Parce que quand même, il se passe un truc pendant la ménopause, tout est exacerbé. Donc, j'imagine que si on a envie du sucre, si on aime l'alcool ou si on aime fumer, comment ça se passe? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez un peu tout changé ou...
Oui, en fait, j'ai tout changé lorsque j'ai commencé l'hormonothérapie parce que c'était si compliqué, les effets secondaires, que je me suis dit qu'il valait mieux que je m'adapte moi. Hein, ce n'est pas le médicament qui allait s'adapter à moi, visiblement. Et donc, je suis allée voir une nutritionniste qui s'appelle Corinne Cheval, qui est extraordinaire. Et donc, elle m'a fait faire des analyses complètes et elle m'a donné des compléments alimentaires assez simples et qui convenaient à mon prototype. Et après, j'ai coupé deux repas. Je ne mange pas pendant 18-19 heures tous les jours, donc ça change beaucoup. Et au repas que je garde, je mange ce que je veux. Mais en vérité, quand on se met dans un système un peu vertueux, après, on a envie de le continuer, même quand on mange. Donc, je ne romps pas mon jeûne en m'envoyant 5 barres de hot dog et une tartine de Nutella. Et je mange plutôt des choses comme tout le monde. Hein. C'est des légumes, des lentilles et des protéines. Moi, j'ai besoin de protéines. Donc, je ne suis pas végane. Et ça donne aussi une grande vitalité cérébrale. Donc, ça, c'est très agréable. Je suis quand même du Sud, même si je suis du Nord d'un pays du Sud. Mais sinon, moi, cette affaire de déjeuner, moi, ça me donne envie de faire la sieste.
Ça, je suis d'accord.
Et donc, ça me coûte beaucoup moins de ne pas manger, de boire de l'eau, des tisanes, même du thé si j'ai envie, du café, mais sans sucre, quoi.
Et quand on parlait de ménopause, je sais que vous êtes très proche avec votre sœur, votre maman. Est-ce que vous en avez parlé ou est-ce que c'était un sujet complètement tabou?
Non, j'en parle pas mal avec ma sœur parce qu'on se donne des tuyaux, mais ma mère n'a pas eu de symptômes. Donc elle, ça lui a fait pratiquement ni chaud ni froid.
Ouais. Ah ouais.
Parce que bon, le premier symptôme de la ménopause, c'est-à-dire l'aménorrhée, c'est pas non plus une galère, quoi. Moi, ça me manque pas tellement tous les mois d'avoir mal au ventre. Julia, elle est encore enfant, mais non, mais moi, je parle facilement avec mes enfants. Ma mère est d'une autre génération, quand même. C'est un peu une affaire d'époque. Et puis, elle n'a pas eu beaucoup de symptômes. Donc, effectivement, elle ne ressent pas besoin de s'épancher.
De s'épancher. Ouais.
Moi, j'ai les symptômes normaux. Hein, c'est-à-dire
genre bouffée de chaleur, par exemple, tout à l'heure.
Le sommeil et les chaleurs, oui.
Vous aviez un éventail.
Oui. Il n'y a presque pas une journée où je n'ai pas une bouffée de chaleur, ça, c'est certain. Mais avec tous ces compléments alimentaires et ce changement de direction comme ça dans ma manière de vivre, j'ai beaucoup atténué les symptômes. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec, par exemple, le froid.
Vous prenez des douches glacées.
Des bains aussi glacés. J'ai un truc Lumi, vous savez, un truc qu'on peut remplir de glace et on se met dedans.
Mais non.
Mais si, c'est vraiment génial. Je l'ai là, il faut le gonfler. Sinon, je fais de la cryothérapie presque toutes les semaines. Je fais un truc qui s'appelle le Dome.
Oui, je vois.
Je le fais toutes les semaines, 2-3 fois par semaine. C'est une détox fantastique. Ça coûte pas cher. Ça coûte 15 euros, 20 euros.
Vous
la
pouvez
séance.
Nous raconter comment c'est?
Alors, c'est un Dome. Ça s'appelle le Dome, le Vital Dome ou le Dome IHI. Et donc, on rentre dans un tuyau qui ressemble un peu à un scanner ou un IRM. Et là, on reste dedans pendant 40 minutes. C'est vrai que c'est un peu long. Mais en revanche, on peut téléphoner, on a la tête dehors. Bon, moi, je mets la tête dedans aussi. Et ce dôme est une espèce d'invention remarquable. C'est un sauna infrarouge qui détoxifie complètement le corps. Donc, on en ressort allégé, modifié, tranquillisé. C'est bon pour le sommeil. On dit que le Vital Dome enlève aussi les métaux lourds qu'on peut accumuler dans le corps avec certains poissons, certaines nourritures. C'est un appareil dépolluant. Donc ça m'aide beaucoup. La cryothérapie aussi, ça aide beaucoup. Là, ça prend 3 minutes. Ça aussi, ça coûte pas cher du tout. Hein, ça coûte 30 ou 40 euros. Je veux dire, c'est pas un truc coûteux.
Non, bien sûr. Et la douche glacée, ça coûte rien.
Et la douche glacée, ça coûte rien. On la fait chez soi. Et si on la fait tous les jours, ça modifie son existence. Et en fait, il a été, je crois, scientifiquement prouvé que si on se mettait dans une situation froide, 11 minutes par semaine, donc on pourrait dire 1 minute et demie par jour. Ça modifie vraiment notre immunité, ça modifie nos résistances, ça modifie nos résistances à tout refroidissement et à toutes les pathologies virales qui sont celles de l'hiver, les rhumes, les grippes. Ça, par exemple, contre les bouffées de chaleur, ça marche très, 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 très bien. Alors, il y a déjà des copines qui me disent « Ah non, moi, je ne fais pas de douche froide ». Mais les bouffées de chaleur, elles ne sont pas complètement, complètement détachées du mental. Hein. On le sent, hein. Parce qu'on les a, d'accord, à cet âge-là, mais aussi dans des moments particuliers. Pas celle de la nuit. Hein. Celle de la nuit, quand on dort, on se sent que c'est le système parasympathique qui crée un peu une confusion. À mon avis, c'est un message du foie. Parce que quand je bois un coup, j'en ai beaucoup moins. Le foie étant occupé à digérer le vin, il m'envoie moins de bouffées de chaleur. Ou peut-être simplement, je ne me réveille pas. C'est sans doute ça.
Je me permets cette question, mais est-ce que vous en avez parlé avec Nicolas de votre ménopause? Est-ce que justement, quand vous parlez, j'ai des bouffées de chaleur comme ça la nuit et tout, est-ce que vous vous êtes dit...
Ah ben, parce que nous, on est complètement mariés, comme tous les maris et femmes, on partage notre intimité. De toute façon, ils s'en rendent compte, puisqu'ils dorment avec moi. C'est difficile de faire comme si ça n'existait pas. Mais au début, j'étais un peu indignée parce que je me disais, c'est quand même incroyable qu'on essaye de soudainement nous enlaidir simplement parce qu'on ne se reproduit plus. Non, c'est pas possible que ce soit notre existence ne soit relative que à ces choses-là. Et donc, c'est en cela que j'avais le sentiment de regarder aussi les choses par le petit trou de la lorgnette, l'existence par le trou de la lorgnette. Je crois qu'il faut la voir large. Ménopause, adolescence, mort. Qui vivra verra. Je crois qu'il faut quand même le garder positif comme une expérience. C'est intéressant. C'est une expérience intéressante quand même de passer dans un autre âge défini par quelque chose. Parce que eux, les hommes, ils passent dans un autre âge. Toutoum, 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 toutoum. C'est pas genre un lundi, on te ferme la porte d'un truc. Non mais ça va, déjà qu'on se cogne la partie la pire, hein, c'est clair. Par rapport à la reproduction, hein, grâce à nous, il y a l'espèce. Hein, sans nous, plus d'espèce, hein, c'est pas eux qui accoucheraient. T'as vu comment ils sont quand ils ont un mal à une dent. On est quand même sympa de les aimer, je trouve. Et donc, il ne va pas être épargné par la ménopause. Sinon, qu'il prenne une jeune. Mais il n'a pas envie.
Quel rôle les hommes ont joué dans votre vie?
Oh, mon Dieu, central. Mais moi, j'aime beaucoup les hommes forts. Ouais, je dirais même que j'aime les soumettre.
Vous êtes dingue,
je ne suis pas du tout portée aux oméga qui m'obéissent. Du tout, du tout, du tout, du tout. Mon mari est comme ça, mais même mon père était comme ça. Et j'aime bien les gens qui ont vraiment beaucoup de caractère, de personnalité. Chez mon mari, c'est vraiment ça qui m'attire, cette forte, forte, forte énergie, quoi. qui bouge tout le temps, qui est là tout le temps. Et ça me paraît être une belle manière de vivre. Et ça me contamine. Moi, je suis un peu mélancolique, un peu contemplative. Heureusement, j'ai une énergie physique considérable, mais j'aime quand même ces natures comme ça, comme comment il est mon homme. Oui, oui, j'aime bien la force, même chez les femmes, en général. Nietzsche disait « faut toujours protéger les forts contre les faibles ». C'est incroyable, hein, cette phrase. Il disait que c'est seulement les faibles qui attaquent.
J'adore quand vous dites « mon homme ». J'adore quand vous citez Nietzsche ou Malraux, parce qu'à chaque fois que je vous écoute, vous citez toujours des auteurs, mais j'adore quand vous dites « mon homme ». Comment ça se passe avec votre homme? Vous avez posté une photo où il est en t-shirt noir, où on voit un peu son muscle.
Il le montre.
Ouais. C'est ça, il est tout bronzé. Et en dessous, vous avez marqué, c'est comme ça que je t'aime.
Je t'aime comme ça,
je t'aime comme ça, mon homme. Et je me suis dit, rien que vraiment, on sent qu'il y a une espèce de sensualité, sexualité, amour. Enfin, vous passez les années, j'ai l'impression que vous aimez chaque fois plus fort.
C'est
dingue.
Le vrai avantage des seconds ou des troisièmes mariages. Moi, je suis son troisième mariage dans son cas, lui, mon second, si je peux dire. Mais ça donne lieu à des gens qui se connaissent. Moi, je crois que c'est très individuel, la libido. Il y a des gens qui ont beaucoup de libido, il y a des gens qui ont très peu de libido, et ça ne se voit pas forcément aux apparences. Il y a des gens qui ont beaucoup de tempérament et très peu de libido, par exemple, qui mettent toute leur énergie dans leur tempérament, justement, dans leur caractère, dans leur manière de parler ou de vivre. Et moi, je dirais que le libido, c'est secret. Parce que c'est très, très érotique. Et donc, je crois que c'est vraiment ça, c'est silencieux.
Alors, est-ce que vous vous sentez plus libre aujourd'hui qu'avant?
Oui, moi je trouve la libido compliquée pour les femmes au début. Moi je trouve qu'au début de leur vie d'adulte, de leur vie sexuelle, je trouve que c'est compliqué pour les femmes. Je trouve qu'on se sent vaguement agressé. Je veux dire, si on fait l'amour avec un homme, si on fait l'amour avec une femme, pas du tout. C'est merveilleux. Mais comme toutes les femmes, on n'est pas toutes dans la possibilité d'avoir une relation homosexuelle. C'est dommage. Parce que je trouve que la sexualité féminine, elle est complexe, elle est mystérieuse et elle est délicate à découvrir, quoi. Et donc, eux, ils sont en mode panique, hein, faut pas croire. Nous, on est en mode panique, hein. Et donc, même quand il y a beaucoup d'amour, beaucoup de désir et du plaisir, je trouve que ça prend un temps pour se sentir à l'aise. Je dirais que l'âge apporte beaucoup à la vie physique et sexuelle des femmes et des hommes. Je pense que même les hommes s'améliorent avec l'âge, qu'ils ont moins peur.
Est-ce que vous prenez plus soin de votre corps depuis le diagnostic du cancer du sein?
Oui, je prends plus soin vraiment de moi. En général, je prends aussi beaucoup plus soin de mon âme.
Comment on prend soin de son âme?
Pour ma part, c'est relié au fait que moi, j'ai un gros problème d'addiction. Pour moi, prendre soin de mon âme, c'est soigner ça. Oui, soigner vraiment cette chose que j'essayais de soigner depuis longtemps, mais malheureusement, je n'avais pas pris les bons soins. J'avais pris les psychothérapies classiques. Malheureusement, l'addiction n'est pas une affaire de névrose, mais c'est une affaire de trauma. Et donc, il faut le soigner comme on soigne les traumas. Pour le coup, la parole peut aider, mais jusqu'à un certain point, ce n'est pas dans la parole. Ce n'est même pas dans la mémoire.
Vous pouvez nous raconter votre addiction?
Ah, moi, je suis addict à tout, selon les moments. Hein.
Oui, parce qu'on se disait effectivement, vous êtes un personnage assez excessif.
J'ai écrit une chanson qui s'appelle L'Excessif, qui dit vraiment le fond de ma pensée.
Je suis excessif, j'aime quand ça désaxe. Exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gay, excessivement triste. C'est là que j'existe.
Quand je relis mes textes, je me dis, mais c'est incroyable à quel point je suis sincère, finalement. Oui, bah je sais pas, moi je suis née excessive, j'ai pas été dotée de modération, quoi.
Alors, quand on est en ménopause, ça doit être terrible. Moi qui suis quand même déjà addict à 1000 trucs et qui suis un peu excessive en période de ménopause, c'est très compliqué, non?
Oui, moi je me suis dit, tiens, je vais rétro-pédaler, comme ça, je vais me mettre dans le vide, justement, c'est intéressant. Non, moi je ne suis pas sortie d'affaires, mais je suis sur la bonne voie.
Et alors, qu'est-ce que vous faites pour vous soigner?
Ce sont des autres thérapies, le MDR, l'hypnose... Ouais, ouais. Donc, ce sont d'autres thérapies extrêmement intéressantes et extrêmement vastes. C'est-à-dire qu'elles nous mènent pas du tout, du tout, du tout ici, dans cette existence. Je crois qu'elles nous mènent à une certaine spiritualité. Voilà, je dirais ça.
En tout cas, j'ai l'impression, mais je vous ai toujours trouvé très épanouie, mais j'ai l'impression, quand vous parlez, qu'il y a quelque chose de... Comme si tout roulait. Comme... Ouh, tout
non, mais je crois qu'il faut l'envoyer, ce truc-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'essaye de le faire. Je ne l'ai pas toujours fait. Plus jeune, je ne le faisais pas. J'étais colère, j'étais insatisfaite. Et c'est vraiment... Il y a des grands avantages à l'âge. On perd cette petit regard sur les choses. On dissout son ego. À chaque fois que je fais un truc con, ça vient de lui. Alors, donc, on en a besoin pour se défendre, hein, on en a besoin pour se construire, c'est certain. Si on n'en a pas, les gens vous marchent dessus.
Oui.
Mais ça doit être un bon valet, hein, ça peut pas être notre maître. Par rapport à cette chose de vibration et de ménopause, je dirais que vraiment, il faut essayer de bien le prendre, même si c'est compliqué. Et je suis convaincue... Je ne suis pas du tout une adepte de la méthode Coué, moi. Du tout, du tout, du tout. Hein. Je fais 17 ans de psychanalyse. Bon, la méthode Coué, ce n'est pas mon truc. Faire semblant qu'il n'y a pas le problème, ça m'angoisse terriblement, terriblement. Mais quelque chose de l'ordre d'opérer une bascule, puisque c'est comme ça, on arrive à cet âge-là, eh bien, en faire une période glorieuse, quoi. Même si on se force à en faire une période glorieuse. Moi, je crois profondément... que si on envoie quelque chose comme ça, c'est ça qui nous reviendra. Et donc, c'est ça que je me conseille de faire. Tous les matins, par exemple, je fais une méditation. Bon, par exemple, si tous les matins, en se réveillant, même si on se réveille à 6 heures du matin, on fait 10 minutes de méditation sur une application hein, qui vous guide, on n'est pas obligé d'être un Krishnamurti, hein, je veux dire. Mais on peut faire sa petite méditation avec son téléphone. Et ça modifie l'existence, parce que ça nous met à distance de notre pensée. Et la chose la plus intéressante que j'ai compris dans ces dernières années, dans ces derniers mois peut-être, c'est qu'on n'est pas notre pensée. Et on n'est pas réduit à notre pensée. Ça encore, c'est un truc de l'ego. On a notre âme, notre senti, nos sentiments, on a tout ce qui nous échappe, on a notre instinct. Toutes ces choses-là sont beaucoup plus importantes que notre pensée. D'accord ? Notre pensée, c'est un truc régulateur. Voilà. J'ai vu une conférence d'un grand neurologue qui disait cette phrase folle. Il disait « Le cerveau n'est pas prévu ». Pour envoyer des pensées positives, il est prévu pour envoyer seulement des pensées négatives d'alerte, parce qu'il est là pour nous défendre. Donc, on sonne à la porte. Je me dis pas, tiens, c'est Elsa qui vient me voir hein, à l'improviste. Non, je me dis, c'est peut-être un voleur. Hein? Donc, tiens, demain, on doit faire des photos. Je regarde par la fenêtre. Mon cerveau me dit, il va peut-être faire mauvais. Donc, ce monsieur neurologue, ce grand médecin, disait, il faut comprendre que le cerveau, il est fait pour faire ça, comme le cœur est fait pour battre, comme le foie est fait pour filtrer, l'intestin est fait pour expulser, etc. Le cerveau, c'est ça son métier. Donc, tu te réveilles, il pense gris. Parce qu'il doit te défendre. Donc, il faut se distancer de lui. Et en fait, la méditation permet de se distancer de son cerveau. En quelque sorte, de lui offrir un peu de repos. De l'observer, parce qu'on voit qu'il n'arrête pas d'intervenir. N'oublie pas d'aller chercher le truc. Tu dois appeler quelqu'un d'autre. Attention, t'es retardé le truc. Hein? Pendant la méditation. Mais au lieu de se dire, oh, je suis trop nul, j'arrive pas à faire ma méditation, on se dit, il vient encore de penser le con pour rien parce que je suis en train de faire ma méditation là, donc je respire en vérité. J'inspire et j'expire et en faisant ça, le cerveau est déconcerté, il devient plus aimable et on arrive à le manier pour l'envoyer vers du positif, comme par exemple tu vois quoi la ménopause, c'est une période royale, on est au mieux, on sera plus jamais aussi bien que ça hein. On sera plus jamais aussi sexy, on sera plus jamais aussi intéressante, ou on peut continuer jusqu'à la mort, hein, parce que la période royale, c'est là qu'elle se passe. Hein. Ce que j'ai compris en vérité à travers la maladie, c'est que tout vraiment était à l'intérieur de soi. Tout dépend de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et même en cas de malheur, de désastre, si à l'intérieur de soi, on sait comment se connecter, se retrouver, on tient quoi dans les remous, dans les vagues, dans la houle, on tient mieux. C'est beaucoup mieux de rentrer au fond de soi-même et de s'offrir une certaine joie. Ça vaut le coup. Mais c'est tous les jours. Donc, ça donne une certaine discipline en plus.
Est-ce que le fait d'avoir eu un cancer du sein et d'avoir la ménopause, ça a donné un sens différent à la vie?
Ça a donné vraiment un nouveau sens à la mort pour moi. Et donc, ça a modifié ma vie. Complètement. Ça a donné un autre sens à Dieu, par exemple. Qu'on appelle Dieu, parce que j'ai pas d'autres mots. Mais il s'en fout, en plus des mots. On voit bien qu'il est pas dans les mots. Et ça a donné un autre sens, même à mon existence quotidienne. Oui, oui, ça a donné un autre sens. J'arrive pas vraiment à dire, mais oui, ça m'a modifié mon regard sur la mort. Je me suis dit, mais c'est pas si grave. Je me dis, il y a pire, il y a la vie.
C'est joli, ça. Il y a pire, il y a la vie. Est-ce que ça vous a apporté une modification dans votre comportement, au-delà du physique, d'avoir cette ménopause?
Au début, franchement, j'avais l'impression que c'était beaucoup de turbulences. Alors que moi, je n'ai pas un tempérament très turbulent. Je fais un peu tous les jours la même chose, comme une pendulette.
Il y a des sauts d'humeur. Beaucoup de femmes parlent de sauts d'humeur. Vous avez eu ça?
Non, une espèce d'un peu truc PMS, un espèce de truc où on peut être un peu excédé, physiquement excédé. Je dis PMS parce que c'est l'histoire des femmes, cette affaire d'hormones. Toute la vie, il n'y a pas un jour où on n'est pas mise là-dedans. Et c'est avant, et c'est après, et les grossesses, et pas les grossesses, et ce qu'on fait cuite. Quel temps perdu.
Quand vous dites, c'est très nouveau, moi j'ai personne au micro qui a dit ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est une ménopause joyeuse, qu'il faut la prendre bien. C'est très généreux parce que ça offre un nouveau visage, un nouveau regard.
C'est parce que c'est ce que j'essaye de m'offrir à moi. Donc en fait, je vous dis juste ma technique à moi, quoi. Parce que il y a vraiment quelque chose d'important dans la pratique. Il y a très peu de choses qui sont théoriques. C'est pour ça que les études ont leurs limites. C'est parce qu'il y a très très peu de choses qui sont théoriques, en vérité. Et donc la pratique de cette affaire de ménopause, moi je dirais qu'il faut faire un point de bascule. Qu'il faut accepter que c'est un moment de bascule, qu'on ne va pas pouvoir éviter, hein. Parce que je pense même pas que les femmes qui bénéficient d'un supplément hormonal, c'est qui est formidable, évitent tout, hein, parce qu'elles se sentent un peu inquiètes par rapport au supplément hormonal. C'est complexe, en fait, cette situation. Est-ce que quand notre corps cesse de produire des hormones, est-ce qu'il faut lui en donner quand même? Faut se poser la question. Si ça nous soulage et qu'il n'y a pas de maladie, pourquoi pas? Franchement. Si ça peut nous éviter l'ostéoporose, un peu de mélancolie ou de dépression, etc., ou la fin du sommeil, pourquoi pas? Il y a aussi la science qui peut nous aider. Et il y a cet endroit au fond de soi qu'on peut faire basculer dans quelque chose qui non seulement accepte, mais qui transforme, quoi. Parce que si on fait pas ça, c'est quoi le sens de toutes nos vies même? Faut transformer le malheur en bonheur, faut transformer la jeunesse en vieillesse, faut transformer, quoi, faut s'y faire.
Et la vieillesse, on la transforme en quoi?
Et la vieillesse, on la transforme en sérénité, et la sérénité, on la transforme en transition, et la transition, on la transforme en mort, en éternité.
Vous imaginez grand-mère?
Oui, je m'imagine très facilement grand-mère, d'autant que mon mari est grand-père, que notre fille est née après notre premier petit-enfant, qui n'est pas le mien. Ça me rappelle un truc rigolo, c'est quand il était président de la République française, mon mari était au téléphone ici, et il était au téléphone avec le président des États-Unis, Barack Obama, et comme il était au téléphone avec Barack Obama, il était 11h du soir. Et mon mari était déjà au lit sur speaker avec des traductrices. En train de parler au président des États-Unis. Ils ont eu une conversation extrêmement sérieuse que je n'ai pas écoutée. Mais ensuite, mon mari venait d'avoir son premier petit-fils qui s'appelle Solal, le fils de Jean et de Jessica. Et donc, Barack Obama a dit à mon mari, « Je voulais te dire aussi, Nicolas, félicitations. Je sais que tu as eu un petit-fils. Merci, dit mon mari, très joyeux. » Et Barack Obama, il dit, je voulais te poser une question un peu marrante. Ça fait quoi, Carla, de dormir avec un grand-père? Et alors, mon mari l'a très mal pris. Et il a dit, il a grommelé quelque chose du genre, ça te pend au nez, toi aussi. Obama a dit, non, ma fille est née à 12 ans. Et il a dit, mais ça, le temps passe très vite. Donc, arrête de la ramener. Mais ça m'a bien fait rire d'entendre le président des États-Unis qui disait une phrase pareille. J'ai trouvé ça sympathique parce que ce sont des positions dans lesquelles il y a tellement de poids, tellement de tension que rarement il y a la place pour une blague sympathique. Et marrante, non? Donc oui, je me sens très prête à être grand-mère. J'ai l'impression déjà d'être grand-mère parce qu'ils ont 3 enfants qu'on a vu naître. Et moi, je suis pas particulièrement adepte de ma jeunesse. Hein. Je souffrais beaucoup plus dans ma jeunesse. Bon, j'aurais bien gardé le petit corps comme ça, hein, je dis pas. Mais j'aurais bien gardé aussi l'insouciance qu'on a avant de rencontrer la mort de tous les gens qu'on aime. Parce qu'arrivé à notre âge, il y a beaucoup de gens qui sont morts.
Bien sûr.
Et donc, c'est ça, au fond, la tristesse de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut la voir autrement, cette mort aussi. Et parce que si c'est une continuation, c'est plus du tout triste. Même au contraire, c'est limite charmant. Mmh. Et ça donne de l'espoir.
Si vous aviez un dernier conseil à nous donner, un petit ajustement, un petit tips, un dernier là, comme ça, en partant.
Ben moi, je dirais que c'est une période riche. Et c'est aussi une période où l'on sème quelque chose. Et il y a quand même une possibilité... En faisant attention à cette période, d'avoir une belle dernière période avant de partir d'une période, par exemple, où le corps est toujours là et qui nous apporte son énergie pour vivre, voyager, s'aimer, parler, créer des trucs et continuer, quoi. Le problème, c'est que quand on néglige son corps, quand on n'écoute pas ce qu'il nous dit, et malheureusement, il se rouille. Et je crois qu'il faut vraiment bondir sur l'occasion. Voilà ce que je dirais, moi. Bondir sur l'occasion de la ménopause pour modifier quelque chose.
Moi, je vais bondir pour vous embrasser, non, je crois.
On bondit.
Merci.
Merci à
vous. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci, merci. Oui.
J'avais envie de revenir sur ce que Carla Bruni appelle cette espèce de truc qui fait qu'on peut être un peu excédé, physiquement excédé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces p*** de sautes d'humeur. Elle les compare au syndrome prémenstruel et malheureusement, elles se poursuivent à la ménopause. Ces excès d'humeur que je connais bien, où l'on peut soudain être triste ou en colère, j'ai voulu savoir ce qui les provoquait, puisque moi, ça m'arrive tellement souvent. J'ai bien une petite idée, mais je suis quand même allée voir ma complice sur Bel et Bien, la neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS, Sylvie Chocron. Elle explique avec douceur et tendresse le fonctionnement du cerveau, car chez nous, tout est cérébral, et à la ménopause, c'est quelque chose. Sylvie a accepté de nous décomplexer sur le rapport entre nos chamboulements hormonaux et notre cerveau. Sylvie, on découvre malgré soi à la ménopause de sacrées variations d'humeur. Comment faire pour accueillir sereinement ces sautes d'humeur ?
En fait, le problème, c'est que les hormones provoquent ces sautes d'humeur, mais ces sautes d'humeur, elles provoquent aussi des difficultés relationnelles avec nos proches. Et donc, du coup, après, c'est une cascade d'événements qu'il va falloir gérer. Donc, du coup, c'est important de pouvoir savoir ce qui peut contrer l'effet de ces hormones. Là encore, pour certaines, ça va être le traitement hormonal. Pour d'autres, ça va être des solutions qui seront des solutions vraiment physiques ou morales. Alors en fait, je pense que ce qui aide, effectivement, c'est de prendre conscience qu'on ne contrôle pas tout, qu'on est vraiment sous la dépendance de nos hormones, que du coup, il va falloir trouver des moyens. Donc ça, pour certaines, ça va être la méditation, pour d'autres, la relaxation, pour d'autres, le sport, pour d'autres, les interactions sociales. Alors, franchement, il n'y a pas de recette miracle qui conviendrait à tout le monde. Donc, du coup, c'est important de trouver ce qui va être le plus efficace pour chacune d'entre nous. Il faut trouver quelque chose qui nous apaise, qui nous rassure, qui nous fait du bien. Un petit jardin secret dans lequel on va se réfugier quand on est dans cet état-là et qui va nous éviter de subir toutes les conséquences de ces sautes d'humeur.
C'est dur pour soi, mais l'entourage peut être affecté aussi. Est-ce que ça peut être utile de l'expliquer à nos proches quand ce sont nos hormones qui nous mettent dans tous nos états ?
On pourrait tenter de conseiller aux femmes d'expliquer ces phénomènes autour d'elles pour que les gens puissent comprendre que parfois elles ont surréagi et que c'est pas la peine de rentrer dans un énorme débat avec des questions de vie, etc. Mais c'est à double tranchant. Parce que lorsqu'on explique qu'on a des sautes d'humeur, qu'on peut surréagir, du coup, ensuite, à chaque fois qu'on va se mettre en colère, les gens vont penser, laisse tomber, c'est parce qu'elle va avoir ses règles, ou c'est parce que c'est sa ménopause, c'est ses hormones, etc. Donc du coup, pour échapper à ça, je pense qu'il faut avoir suffisamment d'introspection et d'honnêteté intellectuelle pour pouvoir dire parfois, je suis désolée, j'ai surréagi, je pense que ben, c'est peut-être lié au bouleversement hormonal que je traverse en ce moment, mais ça ne recouvrait pas de choses aussi importantes que ça, on ne va pas remettre en question notre couple, notre vie, etc. Et puis parfois dire, oui c'est vrai qu'en ce moment des fois je m'énerve un peu facilement, ou je suis irritable ou irascible, mais là ce coup-ci je suis vraiment très fâchée, et ça n'a rien à voir avec mes hormones. Donc du coup ça veut dire que les femmes, elles doivent faire preuve à la fois de capacité d'introspection et puis à la fois d'une certaine honnêteté intellectuelle, parce qu'on ne va pas non plus tout mettre sur le dos de nos hormones. Il y a des fois où on a tort, il y a des fois aussi où on a raison de se fâcher. Et donc du coup, on ne va pas non plus se réfugier derrière ces modifications hormonales pour justifier tous nos comportements.
Oui, en fait, même pour nous, ce n'est pas toujours évident de faire le tri dans toutes ces émotions ressenties. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à celles qui se sentent, un peu comme moi, débordées par toutes ces sensations nouvelles ?
Ce qui est le plus douloureux, sans doute, c'est de ne pas se reconnaître. C'est de se surprendre à être plus désinhibé ou plus extraverti, ou plus triste ou plus angoissé que ce qu'on était auparavant. Et donc, si on veut arriver à réconcilier la personne qu'on est après la ménopause avec celle qu'on a été avant, et si on veut éviter qu'il y ait un clivage, justement, et que la ménopause ne soit pas une pause ni un clivage entre la vie d'avant et la vie d'après, ben il faut apprendre du coup à s'approprier ses sentiments, à les exprimer et à se reconnaître dans les relations qu'on a avec les autres avec ces nouvelles façons de réagir.
Sylvie, est-ce que toutes les femmes ménopausées ressentent ça ?
Il peut y avoir des moments, alors que les femmes sont ménopausées, où elles vont à nouveau avoir des variations hormonales qui pourraient mimer ce qui se passait au moment des règles, même si elles n'ont plus leurs règles. Et donc pendant ces moments, forcément, les femmes ne vont pas se reconnaître. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des réactions qui, subitement, vont les surprendre elles-mêmes et vont surprendre leur entourage. Donc ça peut être des vagues de tristesse qui vraiment vont les emporter. Alors évidemment, ces vagues de tristesse, elles vont interagir avec l'état psychologique de base de la femme qui subit ça. Donc si ça survient dans un contexte où la femme a une tendance à être un petit peu déprimée ou dépressive, ben forcément ça va l'emporter, cette vague de déprime, et ce ne sera pas du tout la même chose que si ça survient chez quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience d'une dépression ou de moments de déprime. Et donc là encore, les femmes sont aussi dépendantes de leur état de base qui n'est pas le même forcément, donc c'est très dur de généraliser.
Et pas mal de mes amis me parlent aussi de moments de grande anxiété qu'elles n'avaient jamais rencontrés jusqu'alors. Là aussi, c'est les hormones.
C'est la même chose pour l'anxiété. Donc on sait que la baisse d'œstrogène, elle peut provoquer donc, chez 15 à 20% des femmes une véritable dépression. Mais c'est un nombre beaucoup plus grand. Alors c'est dur de donner un chiffre exact, mais peut-être que dans 30 à 50% des cas, les femmes vont éprouver aussi tout d'un coup des moments d'anxiété, vraiment, qui peuvent aller jusqu'à des crises de panique ou vraiment des moments de fragilité où elles perdent confiance en elles. Et donc là encore, il faut pouvoir avoir présent à l'esprit le fait que il se peut très bien que ce soit un effet vraiment hormonal qui n'a rien à voir avec la réalité extérieure.
C'est vrai qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire le lien entre hormones et émotions. Moi, j'ai plutôt tendance à me demander ce qui parfois peut me rendre si triste, si sensible. Et je crois que je ne suis pas la seule.
Parce qu'évidemment, on a été bercé ces 40 dernières années par la psychanalyse, par la psychologie clinique. Et donc, du coup, si on est dans cet état-là, on va peut-être aller rechercher une cause dans la réalité extérieure et se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois dans cet état-là ? Qu'est-ce qui me met dans cet état-là ? Est-ce que j'ai une angoisse de mort, une angoisse par rapport à mes enfants ? Mais en fait, il peut y avoir des effets tout simplement hormonaux.
Merci à Sylvie Chocron pour avoir toujours une explication déculpabilisante et qui nous encourage à ne jamais douter de nous-mêmes. Merci Carla Bruni de nous avoir accueillis dans votre refuge. Votre vision de la vie est singulière. Elle nous invite à nous pencher pour regarder le monde différemment, à faire un pas de côté. Merci à Clémentine Delagrange et Marie Braun qui ont réalisé cet épisode, à Stéphane Bidard qui l'a monté et mixé, et à Alban Claudin qui a composé la musique. Pour nous suivre et avoir toutes les infos, il y a aussi l'Instagram d'Allez J'ose, où je vous invite à vous exprimer librement.